Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. La dernière fois que j'avais fait cet exercice, c'était aussi avec un de mes vieux amis de la télévision, qui était Michel Ducaire. Je retrouve ce soir un autre vieil ami de la télévision, mon ami Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Patrick.
Bonsoir, je suis ravi de t'accueillir aussi. Hein, et puis de vous retrouver les uns les autres.
Alors, nous allons pendant une petite heure, je pense, bavarder ensemble et évoquer Hemingway. Et puis, à l'issue de ce dialogue, vous poserez à Patrick toutes les questions que vous souhaitez. Ce livre donc est sorti une quinzaine de jours chez Artaud. Hemingway, la vie jusqu'à l'excès. Alors on va venir tout de suite sur Hemingway, mais avant, pour que les choses soient claires, et j'avais prévenu Patrick, je voulais qu'on aborde très rapidement, et pour évacuer cette question qui n'est pas au cœur ni de la littérature, d'une biographie de cette qualité, qu'on évoque le buzz, c'est ça, on dit maintenant la polémique qui est née à l'issue de ce livre. Alors, plagiat, pas plagiat, Patrick.
Mais je vais pas te dire.
Après, on parle plus parce que je préfère qu'on parle d'Hemingway. Mais on met les choses au clair tout de suite.
La question est insultante, mais c'est vrai que quand tu as derrière toi plusieurs dizaines de livres, en l'occurrence, je pense que c'est une des choses qu'on m'a reproché. J'ai écrit 60 livres. Bon, c'est comme ça. J'adore la littérature. J'ai écrit les livres depuis mon enfance. J'écrivais des poèmes. Puis après, j'ai écrit un roman quand j'avais 17 ans, Les Enfants de l'Aube. Et donc, quand on a derrière soi 60 livres, qu'on les a tous écrits à la main...
À l'encre violette.
Oui, alors au début, c'était pas l'encre violette. Mais ça, depuis une quinzaine d'années, c'est l'encre violette. Et qu'on a avec soi les manuscrits. Donc, au moins, on est persuadé de ce qu'on écrit. Et les autres, ceux qui viennent voir, tout d'un coup, sont étonnés. Voilà. Parce que pendant assez longtemps, on s'est dit, mais comment est-ce possible qu'un présentateur du journal télévisé puisse écrire? D'abord, savent-ils écrire? Savent-ils lire? Etc. Enfin, il y avait une espèce d'appréciation qui était assez désobligeante. Et on avait l'air de considérer que seuls ne pouvaient écrire que les gens qui travaillaient dans l'édition et qui étaient professeurs de littérature ou qui étaient professeurs tout court. Et j'ai vu d'ailleurs une étonnante tribune libre il n'y a pas très longtemps qui était signée d'un monsieur qui habitait Bordeaux, évidemment, qui se disait donc, je pense qu'il l'était puisqu'il le disait, qu'il était maître de conférence, je crois, à l'université, et ancien salarié de l'édition. Rien que ce mot de salarié de l'édition, pour moi, ça m'est apparu très étrange. Enfin bon, peu importe. Donc, on sentait que là, il avait le droit et moi, je n'avais pas le droit. Ben si, je suis désolé, je pense que tout le monde peut écrire à condition d'en avoir le talent. Et ce n'est pas à moi de le décréter, ni à eux de le décréter, mais c'est au public de choisir. Bon, il se trouve que par ailleurs, un certain nombre de jurys prestigieux ont bien voulu m'honorer dans le passé de prix comme l'Inter Allier, comme le prix Maurice Genevoix, comme des prix ou même le prix des lecteurs du livre de poche. Ça m'avait beaucoup touché parce que ça venait de lecteurs qui n'étaient pas donc des gens appartenant au milieu traditionnel de l'édition. Donc le simple fait qu'on puisse me soupçonner de ça m'était assez désagréable. Alors après, je reconnais un certain nombre d'erreurs, en effet, et la première erreur, c'est l'éditeur lui-même qui s'en est excusé aussitôt, je dirais quelques heures après qu'on s'en soit aperçu. L'erreur a été d'envoyer des livres qui n'étaient pas dans la bonne version, pas dans la version finale. C'était pas ce qu'on appelle les épreuves, c'était un peu mieux que les épreuves, mais c'était pas le livre final. Le livre final, tel que les libraires l'ont reçu à la date prévue, ce livre, bon, bah, c'est le bon livre, c'est celui que j'avais validé, décidé définitivement. Et il se trouve que le livre que les journalistes ont reçu est, je dirais, presque pour moi pire que ça, mes propres amis qui l'ont lu et m'ont dit l'avoir aimé, ben, ce livre n'était pas le livre définitif. Donc ça, je l'ai assez mal vécu. L'éditeur aussi, bien entendu, a présenté ses excuses au journaliste, m'a présenté ses excuses et surtout a dit « Rassurez-vous, le livre n'est ce livre que vous allez voir, vous allez avoir en librairie, c'est le bon. » Et puis voilà. Et puis depuis, plus personne n'a parlé du vrai livre, parce qu'il existe. On peut le trouver mauvais, incomplet, je ne sais pas, objectif, trop subjectif, mais au moins, j'aimerais bien qu'on lui accole une valeur littéraire. Voilà. Donc, après sont arrivés des règlements de compte, etc., enfin, bon, qui sont hélas un peu propres à notre milieu. Mais c'est vrai que c'est pas un accouchement, c'est un accouchement dans la douleur, au forceps, et c'est pas ce qu'on préfère quand on va présenter un livre, qu'on va l'offrir à tout le monde, qu'il va être présent. Et...
Surtout que tu as passé combien de temps à l'écrire, non ?
Bah, un an et demi, mais il y a eu auparavant, bien sûr, toute la lecture de d'Hemingway, la relecture, parce que je disais tout à l'heure que j'avais lu Hemingway en livre de poche chez un soldeur qui se trouvait juste en face de chez moi à Reims, dans le passage Subé. Et j'avais acheté, je me souviens, tous ces livres que j'ai encore dans ma bibliothèque, qui sont cornés, jaunis, abîmés, les couvertures sont parties pour certains d'entre eux. Mais il y avait le soleil se lève aussi, il y avait Pour qui sonne le glas, il y avait L'adieu aux armes, il y avait bien sûr Paris est une fête, bien sûr Le vieil homme et la mère. Et donc, tout ceci, c'était quand même le background. Et puis, j'avais écrit une première fois pour un éditeur, ça s'appelle l'édition du Toucan, un livre Horizon lointain qui racontait le destin d'un certain nombre d'écrivains voyageurs, dont Hemingway. Il y avait Romain Gary, il y avait Paul Morand, il y avait des tas de gens que j'admire beaucoup, André Malraux et d'autres. Mais j'avais déjà commencé à raconter Hemingway. Alors après, quand on s'embarque dans une biographie comme ça, c'est très compliqué parce que vous vous retrouvez... D'abord, moi, je ne l'ai pas rencontré, Hemingway. Hein, il est mort il y a tout juste 50 ans. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai bien connu sa petite fille, Margot, qui, comme vous le savez peut-être, porte ce prénom... vrai nom...
C'est Margot Othé.
Oui, Margot Othé. Margot Louise, elle s'appelait. Donc. C'est son père, Patrick, qui s'appelait Patrick. Deuxième fils d'Hemingway, il lui avait donné. Puis après... avec sa mère, ils lui ont avoué qu'elle avait été conçue après une soirée très arrosée au château Margot. Donc, du coup, elle a changé son nom et elle s'appelle Margot AUX. Donc, je n'ai connu que Margot, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment passé plusieurs des moments forts en sa compagnie. Elle m'a raconté... son enfance à Ketchum, là même où est mort Hemingway, dans ce ranch. Elle ne l'a pas connu beaucoup, puisqu'elle avait 7-8 ans quand il est mort, mais il se trouve qu'elle s'est suicidée 33 ans après sa mort, le jour même de la date anniversaire de la mort d'Hemingway, et elle repose dans le cimetière de Ketchum. Et donc, je n'ai pas eu la connaissance, évidemment, intime d'Hemingway, mais à travers tous ces biographes, il n'y a pas eu de biographie en France. Il y a eu des courtes biographies, comme celle de Denis Lippé, de Gérard de Cortance, de Guillaume Chérel. Il y a eu un certain nombre de biographies de cette nature, mais c'était des biographies d'une centaine de pages. Et les biographies importantes de référence, c'est notamment celles qui sont écrites par des amis d'Hemingway, comme Hotchner, par exemple, ou comme Carlos Baker, et qui avait évidemment tendance à un petit peu de temps en temps...
Carlos Baker qui a quasiment été son biographe officiel.
Hein. Ah oui, officiel et voilà. Donc c'est formidable, c'est un matériau magnifique. Mais en même temps, on se méfie toujours un petit peu, parce que comme tout ceci est raconté par un ami à un autre ami, qu'il avait en plus promis de ne rien écrire du temps du vivant d'Hemingway, qui tiendra promesse. Évidemment, parfois, ça peut être sujet à caution, parce qu'il y a peut-être un peu trop d'empathie vis-à-vis du personnage, mais quand même, ce sont des biographies magnifiques, celles de Hotchner et de Baker notamment. Et puis, Griffin a été très bien sur les premières années du personnage, donc jusqu'à sa 20e année. Et puis, je ne sais pas, à peu près une douzaine d'autres biographies que j'ai lues, en français essentiellement, mais il y en a deux autres que j'ai lues en anglais. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, voilà.
Alors, venons-en maintenant à parler d'Hemingway. C'est mieux que de parler du buzz. Pourquoi as-tu envie, toi, de faire cette biographie d'Hemingway? Parce que tu viens de dire qu'il y en avait beaucoup, pas en France, mais qu'il en existait un certain nombre. Et pourquoi, pour toi, la nécessité d'écrire cette biographie, séduit par le personnage, fan d'Hemingway?
Alors, évidemment, ça faisait longtemps que je tournais autour, parce que depuis ce rapport né de l'enfance, bien sûr, le personnage... comme tout jeune homme qui démarre dans la vie, quand on voit comme ça un barbu qui est aussi efficace, qui aime des sports extrêmes, qui aime des tout extrêmes, c'est pour ça que je l'ai intitulé « La vie jusqu'à l'excès », on est séduit. Puis quand on s'aperçoit qu'en plus, il était toujours là où il fallait être, que par ailleurs, il était... à la fois journaliste et écrivain, mais de passion, qu'il était là, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a été blessé, un des tout premiers blessés américains sur le front italien en 1918, qu'il est là en 1936 pour la guerre d'Espagne, qu'il est là au débarquement le 6 juin 1944, même s'il est à... il est à 20 mètres du rivage, mais il est là sur une barge. Il est là le 15 août, le 25 août 44 à la libération de Paris. Il libère à sa manière Paris, enfin il libère surtout le bar du Ritz. Mais bon, c'est quand même un bonhomme.
Tu méritais d'être libéré quand même.
Ouais, voilà, moi je me dis j'aurais bien aimé avoir cette vie-là. Alors ça c'est la première chose. Mais ce qui m'a surtout évidemment intéressé très particulièrement, c'est les circonstances de sa mort.
Voilà, ouais.
Le choix de sa mort.
C'est à ça que je voulais qu'on commence par là, puisque le livre commence par là. On va peut-être pas suivre la chronologie du livre tout le long de cette conversation, mais commençons quand même comme commence le livre, comme un film. Tu fais un grand flashback après. La mort, oui. La mort qui est quand même... après tout ce qu'on a dit, entendu sur Hemingway, cette force de la nature, cet homme extrême, justement, tout d'un coup, on a l'impression, quand il se suicide en 61, je crois, qu'il est devenu une épave, quasiment. Hein.
Oui, il va se suicider, en effet, le 2 juillet 61, quelques heures, d'ailleurs, après la disparition d'un autre grand monstre sacré de la littérature, qui est Louis-Ferdinand Céline. Ils ne se connaissaient pas, mais Céline est mort le 1er juillet et Hemingway le 2 juillet. Hemingway est mort le 2 juillet à Ketchum, donc dans l'Idaho.
Il a 61 ans.
Voilà. Et 61 ans, bon, j'ai tendance à dire que c'est pas vieux.
Quand même. Moi aussi, j'ai tendance à dire que c'est pas vieux. Ouais.
Peut-être qu'on n'est pas objectif, ouais, mais bon. mais il en faisait 10 de plus. Et ce type qui, toute sa vie, avait été une force de la nature, c'était un champion de boxe, par exemple, un champion de boxe qui ne pouvait pas s'empêcher, partout où il allait, notamment dans le Paris des années 20, le Paris des Montparnasse, il ne pouvait pas s'empêcher de défier à la boxe tout le monde. Ça, c'était sa grande passion, c'était je vais me le faire, tel journaliste a dit du mal de moi, allez, on va faire un combat de boxe, etc. Et il s'est brouillé d'une manière invraisemblable avec un type qui l'adorait pourtant et qui était beaucoup plus connu que lui au tout début, qui était Francis Scott Fitzgerald, simplement parce que Scott Fitzgerald, qui n'y entendait pas grand-chose à la boxe, avait arbitré un match de boxe entre Hemingway et un certain Callaghan, qui était un Irlandais très, très, très sanguin. Et il avait oublié une minute. Donc, il avait laissé le combat durer et Callaghan en a profité pour foutre son poing dans la figure d'Hemingway qui, visiblement, semblait déconcentré. Et pendant très longtemps, Hemingway était persuadé que Scott Fitzgerald avait fait exprès pour l'humilier, ce qui n'était pas du tout le cas, parce que je pense qu'il n'avait vraiment pas ce type de rapport. Mais c'était une force de la nature. Il allait partout où il le fallait. Par exemple, bon, il adorait la tauromachie. Il adorait la regarder. Il allait partout, pas très loin de Bordeaux. Il est allé à peu près partout où il fallait aller. Et il allait beaucoup en Espagne, bien sûr, à Pamplune et ailleurs. Mais de temps en temps, il participait lui-même. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment un sens du courage et du danger. Il allait vraiment jusqu'au bout. Mais voilà que... alors qu'il vivait et coulait des jours heureux entre Key West, qui se trouve donc à la pointe extrême de la Floride, et juste en face, à 80 km de là, La Havane, où il avait acheté une petite maison, plutôt sa troisième femme avait acheté une petite maison pour lui, à la Finca Vidjas, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de La Havane. Voilà que arrive Fidel Castro. On est en 1959, il arrive au pouvoir. Au début, Fidel Castro est une énigme pour les États-Unis. Ils ne savent pas trop si c'est du lard ou du cochon. Ils se disent, voilà, bon, c'est certainement mieux que la dictature pourrie Batista. De Batista, mais quand même. Et dans un premier temps, les rapports avec les Américains ont été assez bons. Et puis, assez vite, Fidel Castro a tourné kazakh et s'est rapproché, comme vous le savez, de l'URSS. Donc, il ne faisait plus bon pour un Américain de continuer à vivre là, bien que Fidel Castro se soit affiché plusieurs fois avec Hemingway, qui était une gloire locale, qui était vraiment l'homme qui a fait connaître les bars de La Havane à tout le monde, et qui pêchait au gros, comme lui. Ils avaient fait un concours un jour à qui allait sortir le plus gros marlin. Donc, lui, finalement, se sent obligé de quitter La Havane. Et là, il va se retrouver dans l'Idaho, dans cet endroit que je n'ai pas eu le temps de visiter, mais je veux vraiment le faire cet été, qui est un endroit qui ne lui allait pas, qui n'était pas pour lui.
C'est Ketchum, ça.
Ketchum. Ouais. Ketchum, c'est dans l'Idaho, c'est un endroit qui, bien sûr, est en pleine nature, qui lui rappelle son enfance, puisqu'il est, il est né pas très loin de Chicago, il adorait les grands espaces, il adorait les endroits où il y avait des Indiens, il adorait la chasse et la pêche. Son père lui a offert un fusil de chasse pour ses 10 ans, ce qui est quand même un drôle de cadeau. Aujourd'hui, je pense que ça serait mal vu. Mais il aimait ça, il aimait profondément les grands espaces, sauf que Il lui a manqué tout. Quoi. Il lui a manqué cette espèce de liberté qu'il avait, en plus
est-ce qu'il
vivant
a pas eu le sentiment aussi, pardon de te couper, est-ce qu'il n'a pas eu le sentiment aussi, après avoir eu le prix Nobel, il a eu quoi, le prix Nobel 6 ans
54,
avant,
oui.
6 ans avant, que c'était fini, que c'était un aboutissement et que d'abord il n'avait plus rien à dire et qu'il n'avait plus d'inspiration pour écrire et que c'était vraiment le début de la fin.
Mais tu as raison, il y a un peu de ça parce qu'il l'a plusieurs fois dit, il a dit ce Nobel c'est une vraie putain, il était très très dur, il employait des mots violents pour fustiger ce Nobel qui avait d'ailleurs un peu fusillé la carrière de quelques-uns de ses rivaux. Il n'était pas très fanatique de Faulkner, par exemple, mais Faulkner l'avait eu 5 ans avant lui. Et donc, il y a eu ça. Mais il y a eu le fait que tous les excès dont je parle, c'est-à-dire les excès du type qui a vraiment été beaucoup trop loin, notamment en matière d'alcool.
D'alcool.
Il buvait au minimum 1 litre d'alcool par jour, et des mélanges invraisemblables. Quand je regarde de temps en temps ce qu'il se vante d'avoir bu, il me dit que c'était quand même un peu spécial. Et donc, l'addition de tout ça, donc un début de cirrhose, un moment de début d'une folie bipolaire qui devient chez lui de plus en plus importante. Tous les accidents d'avion qu'il a eus, notamment 2 d'entre eux en Afrique, c'est un miracle qu'il en soit ressuscité puisque les gens le croyaient mort.
Et plus sa blessure de 1914-1918.
Exactement. 227 éclats d'obus partout dans le corps. Bon, tout ça, ça vous abîme un bonhomme. Et puis un accident à Londres, d'ailleurs, peu de temps avant le débarquement en 1944, un accident de voiture. Donc, il avait tout ça, il était cabossé de partout. Et le pire du pire, pour lui, machiste devant l'éternel, etc., c'est que c'est l'impuissance. La double impuissance. L'impuissance physique de l'homme qui n'arrivait plus à honorer les femmes alors qu'il adorait les femmes, et l'impuissance littéraire. Il avait toujours beaucoup écrit.
On retrouve un peu Romain Gary, là.
Et un peu de ça. Oui, exactement. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et c'est exactement ce qu'il ressent. Et à un moment donné, vous voyez, on se retrouve donc en 1960, arrivée de Kennedy au pouvoir, et on lui demande, puisque lui, c'était un démocrate, bon, même s'il ne choisissait pas un camp particulier, mais il était plutôt démocrate, on lui demande de faire un petit hommage à Kennedy. Un hommage, un feuillet, comme on dit dans notre jargon, 1500 lignes, enfin, 1500 signes, c'est rien. Il n'arrive pas à l'écrire. Pendant une semaine, il n'arrive pas à écrire ce texte. Et pour lui, c'est dramatique. Savoir qu'il va terminer, au fond, sans réussir à exprimer ce qu'il a adoré exprimer depuis l'âge de 18 ans, c'est très, très douloureux. Donc l'addition de tout ça, plus des tas de blessures intimes que personne ne peut décrire, surtout pas moi, mais on le sait, tout suicide est un mystère, tout suicide est une addition de facteurs divers. Voilà, donc
mais c'est très bizarre, c'est bizarre qu'il soit arrivé à cette extrémité, parce que tu racontes quelque part qu'il avait été très sévère avec, je ne sais plus,
son père.
Avec le suicide de son père, mais où il trouvait que c'était d'une grande lâcheté.
Son père est mort 33 ans avant lui, et parce que ça n'allait pas, bon, il avait une santé qui commençait à décliner.
Son père qui était médecin, je crois.
Médecin, il s'appelait Clarence. Il avait une santé qui déclinait, il avait également des problèmes financiers. Et un jour, évidemment, sans en avoir parlé à aucun de ses enfants, ni à sa femme, qui s'appelait Grace, il se donne la mort avec une arme à feu. Donc, comme son fils, un tiers de siècle plus tôt. Et son fils est d'une violence à son égard. Il va le traiter de lâche, pratiquement tout le temps. Et alors qu'il était très proche de son père, il aimait beaucoup son père justement lui avait fait aimer les grands espaces, son père collectionnait des trucs très étranges, des boyaux, des fœtus, ça lui plaisait, ça. Il aimait ce que son père lui a apporté comme dimension de onirique. Et il va s'en prendre à son père tout le temps, pas le droit, et... Il n'empêche que lui-même va le faire.
Alors, puisqu'on parle de son père, on va passer à son enfance peut-être un petit peu, c'est-à-dire justement faire ce flashback. Il a eu une mère un peu particulière quand même, hein, aussi
oui.
Relativement sévère, exigeante.
Exigeante comme on l'était à l'époque dans les familles puritaines. Il est au départ protestant, comme la plupart des Américains. Il va devenir catholique par amour, d'ailleurs, un jour. Oui. Il va décider, parce que voilà, il avait envie d'épouser une femme qui, elle, était catholique. Donc, il change sans problème, puis il se marie à Paris. Il estime que Paris vaut bien une messe et il va devenir catholique pour son mariage avec Pauline Pfeffer. Et là,
deuxième épouse,
oui. La première était une femme. Alors, c'est très étrange, il a eu quatre épouses. Parce que dès qu'il...
On reviendra sur les femmes, si tu veux.
Oui,
parle-moi
oui,
de son enfant.
Mais c'est quand même... Ça en dit long sur...
Oui. Mais peut-être quatre... sa mère en dit long déjà.
Oui,
sur...
oui. Mais trois de ses épouses venaient de la ville de Saint-Louis. Donc... sa mère, elle, était une cantatrice rentrée. C'est-à-dire qu'elle, normalement, elle allait faire une belle carrière au Met, par exemple, à New York. Et puis, voilà, qu'elle était obligée de rentrer parce qu'elle a eu des problèmes de vue. Et puis ensuite, il fallait s'occuper des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu assez mal cette frustration. Deuxièmement, c'était une famille, comme je le disais, puritaine, assez naturellement. Il y avait toujours un ancêtre qui s'appelait Abba, qui distribuait le bénédicité, le pain. Et donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, troisièmement, il y avait un aspect plus étrange, s'agissant d'Hemingway, c'est que sa sœur aînée avait 18 mois de plus que lui et ils vivaient tous les deux. Et après, il y a eu une flopée d'enfants, il y a eu six autres enfants, mais ils étaient collés l'un à l'autre, et ce qui faisait que quand la sœur aînée était encore en jupe à l'âge de 5 ans, on mettait Ernest Hemingway en jupe. Sauf que à 3 ans pour un petit garçon, ça passe, à 5 ans, ça devient plus délicat. Et il a commencé à se rebeller, mais il a été comme tous les petits garçons qui sont un peu tristes parce qu'ils portent des culottes courtes alors que leurs camarades portent déjà des pantalons. Donc tout ça, il l'a un petit peu mal vécu, mais c'est quand même globalement un enfant qui a été... Aimé de ses parents.
Alors comment il choisit cette passion d'écrire? Il ne choisit pas pendant cette passion d'écrire, il a une passion d'écrire, il choisit deux métiers, d'abord journaliste.
Et il commence par le journalisme.
Et après il devient écrivain. Comment ça évolue, comment ça se passe?
Alors au début c'est pour gagner sa vie, donc il va à Kansas City, il travaille dans le le quotidien local, qui était assez réputé, qui est toujours aussi réputé aujourd'hui. Et puis après, très vite, il va s'occuper d'un certain nombre de... il va travailler au Chicago Tribune, mais surtout au Toronto Star, donc qui est un journal canadien très réputé.
L'antibien correspondant.
Exactement. Et il n'a de cesse que d'essayer justement de revenir... puisqu'il a été blessé quand il avait 18 ans, donc sur le front italien, de revenir en Europe. Donc, dans un premier temps, il propose l'Italie comme point de chute, et puis après, il propose Paris, et finalement, le Toronto Star accepte d'en faire son correspondant à Paris, ce qui va lui permettre de commencer à vivoter. Mais vraiment, quand je dis vivoter, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de quoi manger quand il allait... au jardin du Luxembourg avec son premier fils qui s'appelait Jack, dit Bumpy, il allait avec un petit sac juste pour se gauler tous les petits pigeons qui traînaient et leur couper le cou, tordre le cou et le cuisiner le soir. Dans un pot de chambre, paraît-il, ouais. Ce qui devait être bon. Enfin, il habitait dans un petit endroit qui était assez sordide. Et puis... progressivement, il a commencé à prendre confiance parce que c'était un moment où il y avait beaucoup d'Américains qui étaient exilés à Paris. Il y avait une fameuse librairie qui s'appelle Shakespeare et compagnie que fréquentaient tous les autres.
On va venir à son arrivée
Joyce
à Paris.
Joyce et compagnie.
On va venir à son arrivée à Paris, ce qui va d'ailleurs nous permettre de dire qu'il a débarqué à Bordeaux quand il est arrivé.
Oui, exactement. Hein,
il est arrivé à Bordeaux.
Il y reste un peu.
Il reste quelques jours à Bordeaux. Ce que je voulais qu'on dise, c'est est-ce que c'est ce métier de journaliste? Est-ce que c'est Kansas City dont tu parlais à l'instant? Est-ce que c'est aussi son passage à New York quand il va justement s'embarquer pour la Croix-Rouge, pour la Première Guerre, etc., qui lui fait découvrir tout un monde de bas-fonds, un monde interlope, de bars, de quartiers un peu malfamés, qu'il ne quittera jamais de sa vie, finalement.
Non.
Sauf à un moment, peut-être, quand il se marie à la mairie du 16e à Paris.
Mais c'est vrai, je pense que il y a eu chez lui une attirance, trouble, une fascination même certainement, pour les mauvais garçons, pour tous ces quartiers, comme tu le disais, vraiment interlopes, où il y avait des mœurs très bizarres, enfin, je veux dire encore presque plus bizarres qu'aujourd'hui. Et il adore raconter ça. D'abord, il adore les ragots. Puis elle adore raconter. Puis il avait une façon de raconter qui était vraiment très... Il allait à l'économie des mots. Et il faisait ça avec beaucoup de talent. Mais on sent bien qu'il est toujours fasciné. Et quand il va arriver à Paris, par exemple... J'ai le droit de parler de Paris.
La
toute première fois, juste avant de se diriger vers le front italien. Il arrive, Croix-Rouge italienne. Il arrive à Paris. Ils ont quelques jours de répit avant d'arriver à Milan. Il n'a que 18 ans. Et puis voilà que sur les grands boulevards, une dame très belle l'aborde, l'accoste, elle était au volant d'une voiture, l'emmène dans une propriété apparemment loin de Paris, lui fait l'amour, enfin, tout ça est absolument exceptionnel, et lui dit « on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, au revoir monsieur ». Bon, voilà que le jeune Ernest... est quand même taraudé par l'idée de revoir la personne
Madame
en question. Il fait tout. Et là, il va justement s'adresser à quelques marlous qui vont s'occuper de ça et qui lui retrouvent l'adresse qui était une villa, je crois, du côté de Loucienne. Et il va rentrer dans cette pièce à côté de laquelle se trouvait une autre pièce. Et on lui demande d'ouvrir l'œil parce qu'il y a un petit trou entre les deux pièces. Et il va découvrir la fameuse belle dame en compagnie d'un autre jeune homme de son style, mais qui n'était pas lui. Et je pense que cette révélation de l'amour à la fois trouble, mais aussi de la trahison, ça va être quelque chose qui va le suivre tout le temps, en amour, en permanence.
Ah oui, parce que si on reprend simplement les femmes dont tu parles, celles qu'il a épousées et celles qu'il n'a pas épousées et celles qu'il a croisées, il y a quand même une jolie galerie de tableaux.
Alors les épousées, il y en a quatre. Il y en a quatre. La première s'appelle Adley Richardson, plus âgée que lui. Souvent, elles sont un petit peu plus âgées que lui parce que C'était un jeune homme qui peut-être était faussement sûr de lui, donc avait besoin de... Bon, mais assez...
Excuse-moi, je t'interromps. Il faut raconter qu'enfant, il était assez chétif, en robe, oui. etc. Ouais. Et que tout d'un coup, il a pris
30 centimètres en été.
Et qu'il est devenu, qu'il a fait 1m90 et qu'il est devenu une force de la nature, une armoire de glace.
Alors que jusqu'alors, les gens le regardaient comme la petite fillette, quoi. Voilà, la sœur de Madeleine. Enfin, bon, c'était le frère, mais pour eux, c'était la sœur. Donc, il y a eu ce côté-là, c'est « je suis un mec ». À partir de maintenant, je suis un mec. Et donc, pour lui, c'était important. Et il va se retrouver avec Adley, qui va être très importante pour lui. Ils vont ensemble venir à Paris. Et puis après, il en épousera trois autres, Pauline Pfeffer. Alors, ce qui est assez formidable avec lui, c'est qu'il avait à peine divorcé qu'il se remariait tout de suite. Il ne perdait pas de temps. Parfois, c'était 15 jours. Il ne se reprenait pas de temps de célibat, mais assez vite...
Mais il écrivait quand même à son père, « Rassurez-vous, père, je n'ai jamais commis d'adultère. »
Oui. Alors ça, mon œil, parce que c'est visiblement, d'après tous les croisements qu'on peut faire... C'était pas le cas. Mais voilà, il prenait déjà des marques pour le coup d'après. Voilà, puis après, il abandonnait. Il a eu un enfant avec la première femme, donc Adley Richardson, et puis qui s'appelait Jack. Et puis après, il a eu deux enfants avec la deuxième, Pauline Pfeffer. Alors, il a eu... Je vais vous raconter ça, parce que c'est quand même une histoire assez étonnante. Il a eu... un premier garçon, Patrick, donc le père à la fois de Margot et de Marielle, et puis un autre garçon qui s'appelle Grégory. Et ce Grégory a eu lui-même 8 enfants. Il s'est marié plusieurs fois, etc. 8 enfants jusqu'au jour où il a décidé lui-même de devenir femme. C'est quand même ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, même aujourd'hui encore. Et donc, il a subi une opération... Il s'est fait appeler Gloria. Et alors, le truc extraordinaire, c'est qu'il s'est remarié avec la femme dont il avait divorcé, la dernière, dans un état qui permettait ce genre d'union. Les unions homosexuelles, c'était deux femmes qui vivaient ensemble. Et il a terminé de manière terrible, d'ailleurs. C'était dans un commissariat, parce qu'il était pour exhibitionnisme.
Enfin, c'est pas le père de Margot.
Non, c'est l'autre frère. Donc, le père de Margot s'appelle Patrick. L'autre frère s'appelait Grégory. Voilà. Et s'est appelé, à la fin de sa vie, Gloria. Donc, notre ami Hemingway se marie avec Adley, puis avec Pauline, puis avec Martha, et enfin avec Marie. Marie sera la dernière femme. Okay. Mais il y a, au passage...
Il y a une femme aussi qui le poursuit tout le long de sa vie, je pense, c'est Kate.
Oui. Alors, Kate, c'est la femme qu'il aurait aimé... À voir. Je pense qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Ça a d'ailleurs suffisamment agacé Adley. Elle était là tout le temps, en espérant le récupérer. Il y avait quelque chose d'assez beau. Et figurez-vous que cette femme, Kate, qui était vraiment son amour de jeunesse, va épouser un autre très grand écrivain qui va être pendant longtemps le grand ami d'Hemingway. Il s'agit de John Dos Passos, qui est donc... l'auteur de Manhattan Transfer, et c'est assez étrange de voir qu'ils vont se retrouver encore longtemps.
Il y a d'autres femmes aussi, Jane, non ?
Alors, Jane c'est une femme très belle, apparemment.
Et Adriana.
Oui, Jane, il l'avait rencontrée sur un transatlantique, et elle était la femme du directeur de la Paname à Cuba. Et elle était visiblement très très belle, un petit peu fêlée, mais ils ont fait beaucoup de voyages ensemble, avec l'accord plus ou moins tacite de la femme d'Hemingway, qui se disait qu'au moins, tant qu'elle était là et qu'ils étaient ensemble, il n'allait pas courir la gueuse ailleurs. Enfin, c'était un peu étrange comme ménage. Et puis, le dernier amour, en effet, s'appelle Adriana. Alors, il a 50 ans quand il la rencontre. Et il la rencontre du côté de Venise. Il y a à ce moment-là une partie de chasse et une jeune femme qui arrive, qui a 18 ans. Il tombe éperdument amoureux de cette jeune femme. Difficile de dire si c'est vraiment passé quelque chose, si c'est resté à l'état platonique, enfin, peu importe, c'est pas grave. Ils sont restés ensemble quand même pendant 6 ans. Ils ont beaucoup vécu à Paris et il a essayé d'être un peu son Pygmalion. Voilà. et plus tous les autres, toutes les autres femmes.
Tout, toutes celles qu'on ne connaît pas.
Voilà, qu'on ne connaît pas.
Et quelques-unes qui sont connues. Aidez-moi, Marlène Dietrich, alors.
Alors, Marlène Dietrich, apparemment, ça, ils n'ont jamais commis le péché de chair ensemble. Ah, voilà. Mais là aussi, c'était connu sur un bateau entre Paris, entre Le Havre et New York. Et d'une manière assez étrange, d'ailleurs, parce que Hemingway n'avait pas encore de très grands moyens. Il voyageait donc en troisième classe. Et il avait quand même repéré que tout en haut, il y avait les premières classes. Et que première classe, il y avait smoking, il y avait des très belles soirées, ça. Et il s'est fait prêter un smoking par un ami. Il arrive dans cette soirée et il voit Marlène Dietrich, qui est honorée, évidemment, comme il se devait. On lui propose de s'installer à table. Elle s'installe à table et tout d'un coup, elle réalise qu'il y a 13 convives. Donc, elle se lève et elle dit « Non, non, je ne peux pas rester. » Et à ce moment-là, arrive notre Hemingway qui, en chevalier galant, dit « Mais je serai le 14e. » Il s'installe et commence une très très belle relation qui va durer tout le temps. Il avait beaucoup d'amis actrices et acteurs d'ailleurs. Un de ses meilleurs amis était Gary Cooper qui va interpréter plusieurs de ses romans adaptés au cinéma. Et puis Ava Gardner elle sera une amie très très proche aussi. Ingrid Bergman également. Enfin, c'est quelqu'un qui avait un goût assez sûr, quoi, sur le plan de ce qu'on croit connaître des femmes.
Alors voilà pour les femmes. Je voudrais qu'on évoque ce que tu avais commencé à évoquer tout à l'heure, parce que c'est un passage tout à fait absolument formidable dans le livre, parce qu'on se dit que c'était une ville absolument, la ville lumière par excellence. C'est ce qu'il vit à Paris, le Montparnasse. Le Montparnasse qu'il connaît et les gens qu'il croise.
Alors, ce Montparnasse n'a pas trop changé, puisqu'il y avait la rotonde, la closerie.
L'inauguration de la closerie.
Non, pas de la closerie.
L'inauguration de la coupole.
La coupole.
Ouais, la closerie, pardon.
La closerie existait depuis très très longtemps. Ouais. C'était plus d'un endroit justement entouré de lilas. Et c'est certainement l'endroit qu'il va préférer d'ailleurs, la closerie des lilas. Il va beaucoup aimer. Il y a au bar, si vous allez. Un jour, à la closerie des Lilas, vous verrez, au bar, il y a une petite plaque en cuivre avec son nom. C'était l'endroit précis où il était. Il n'aimait même pas que quelqu'un s'installe à sa place. Mais
il doit y avoir la même chose au Ritz, d'ailleurs, au bar du Ritz.
Au bar du Ritz, même chose. Bah, en plus, il l'a libéré, vous vous rendez compte, formidable. Il a libéré surtout les bouteilles qui s'y trouvaient en cave. Et puis surtout, ce qui est formidable avec le Ritz, c'est que, alors que sa première rencontre avec le Ritz doit dater de 26-27, quand il va revenir à la Libération, il va vivre pendant quelques temps là-bas, avoir des échanges assez épiques avec André Malraux, puisque Malraux n'avait pas trop aimé qu'un autre écrivain se pique de libérer Paris à sa place, alors qu'il était américain et que lui, quand même, il avait aussi quelques vertus de ce point de vue, mais il va en 55 apprendre de la direction du Ritz qu'on a retrouvé
des mâles,
et là dans ces mâles il va retrouver toutes ces notes justement
de l'époque
qui vont lui permettre d'écrire un livre qui va devenir posthume puis il ne sera publié qu'après sa mort, qui s'appelle Paris est une fête, qui est un livre formidable qui vous raconte ce qu'était ce monde de l'époque, ce monde où se mélangeaient des gens qui n'avaient pas de sous, la plupart, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des écrivains, beaucoup d'artistes de toute nature et de tout pays qui se retrouvaient à la terrasse du Select, du Dôme, de la Rotonde, de la Coupole, de la Closerie, etc. Et c'était une époque qui est quand même une époque magique. Moi, je suis sûr que t'aurais aimé vivre là.
Oui, je pense. Aussi. Le bœuf sur le toit, on croise Cocteau et Aragon, Raymond Radiguet, Coco Chanel. Enfin, c'est cette époque absolument formidable.
Oui, et puis avec beaucoup de gens qui sont fauchés complètement, qui boivent comme des trous. C'est invraisemblable. Et le patron d'un de ces établissements, qui est le Dôme, un jour, il repère qu'en face, au Select, on refuse les dames qui fument Alors, du coup, il a fait venir toutes les dames qui fumaient, et c'est devenu... Et surtout, les dames qui fumaient et qui portaient du chapeau, ça ne faisait pas beaucoup à l'époque. Enfin, toujours est-il qu'il y avait une émulation entre ces différents bars, émulation alcoolique, mais aussi émulation quant à la clientèle, qui était une clientèle assez choisie.
Alors, tu as évoqué aussi, on va parler un petit peu de ses engagements, parce que, bon, il est journaliste, et c'est souvent à ce titre qu'il va sur les sites des combats. Donc, il fait la première guerre aussi comme soldat, on le disait tout à l'heure, blessé, plus de 200 blessures. Et puis, on le retrouve en Espagne, auprès des Républicains. Et puis, comme tu le disais aussi, 1939-1945, la guerre, le débarquement, la libération de Paris. Quel était ce besoin, non seulement d'être témoin, mais en même temps de s'engager, parce qu'il aurait pu rester comme témoin. D'ailleurs, je crois qu'il y a une grande rivalité aussi là-dessus, entre ce qu'a fait l'un, ce qu'a fait l'autre, entre lui et Malraux, d'ailleurs. Et comment il a ce besoin, lui, d'aller plus loin?
Alors, c'est vrai qu'il aimait être dans les endroits où il se passe quelque chose. Les journalistes qui sont dans la salle peuvent comprendre. On a envie d'être là où il se passe quelque chose. Bon, il se trouve qu'il se passait beaucoup de choses à l'époque. Hein. C'était des événements. Et il était à Madrid, par exemple. Il était bien avant Malraux, bien avant Saint-Ex, Kessel et tous ceux qui sont passés. Aragon, quelques autres. Il n'a pas été, en effet, très séduit par Malraux, qui l'a énervé.
C'est
moi
qu'on puisse dire.
Oui. Alors, il s'était connu à New York, dans un premier temps. Là, il avait une sorte de fascination pour son confrère français. Mais après, quand il l'a revu à l'hôtel Florida, à Madrid, il a trouvé qu'il en faisait un peu trop. En plus, cet homme bourré de tics, là, qui était écouté par la terre entière, qui ne comprenait rien à ce qu'il racontait, même les Français avaient du mal à comprendre ce qu'il racontait.
J'adore l'anecdote. Combien vous avez commandé d'hommes, vous ?
Oui, alors ça, c'est en effet plus tard au Ritz, quand il se retrouve là, justement, après ces troisièmes escarmouches entre eux, il se retrouve dans la chambre 31 du Ritz. Et il est en train de faire cirer ses bottes par tous les gens qu'il avait amenés avec lui. Et là, on va revenir justement sur son côté un petit peu limite ou hors limite. Et voilà qu'arrive furieux André Malraux et qui lui dit « Mais qui êtes-vous quand même pour oser vous prétendre libérateur de Paris, etc. » Et d'abord, vous aviez combien d'hommes ? Et Hemingway dit « 10, 12, 200 au maximum ». Et vous ? Alors l'autre se rengorge, j'en avais 2000. Alors Hemingway lui répond, ah, c'est dommage que vous ne nous ayez pas aidé à libérer cette petite ville de Paris. Parce qu'en fait, notre ami Hemingway, quand il arrive, donc 6 juin 1944, il assiste au débarquement, son ami Robert Capa, qui était le grand photographe, lui débarque, prend des photos dans des conditions invraisemblables, ils sont rapatriés le soir même à Londres. Et très vite, il va venir à Paris via le Mont-Saint-Michel. Alors, il reste un peu chez la mère Poulard, parce qu'il aimait bien les bons endroits. Hein. Il aimait bien là où il fallait boire. À Bordeaux, il a été aussi toujours dans les bons endroits et il a bu les bons crus. Et je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas créer de rivalité. Mais il arrive et puis au fond... ça traîne un peu, là. On est quand même entre juin 44 et août 44. Ça traîne pour lui, la libération. Alors, il décide de s'y mettre. Et il avait un brassard de correspondant de guerre, comme tous les journalistes, ce qui était normal. Et il va arracher ce brassard et le remplacer par un brassard de FFI que lui avait donné un Français qui l'avait remercié, il dit, ah, c'est pour les soldats américains qui nous ont aidés. Donc il met son brassard de FFI et il va enrôler toute une petite troupe comme ça. Au passage, il va ramasser des gens. Il y avait de tout, hein. Il y avait des gens de sac et de cordes, etc. Puis il va faire une vraie petite bande. Et quand il va arriver à Rambouillet, il va libérer une partie de la ville de Rambouillet quand même. Et puis il va aller voir Leclerc, qui lui avait décidé d'arriver dans Paris donc, le 25 août. Et Leclerc va le trouver un peu zozo, quoi, un peu farfelu. Et ils ne vont pas accrocher. Alors Hemingway était agacé parce qu'il pensait qu'il arrivait...
C'est pas tout à fait le même monde. Hein.
Non. Mais il pensait qu'il arrivait avec des informations importantes. Il avait été à Chartres, il avait été dans le... Donc il se disait, l'autre ne me prend pas au sérieux. Eh bien, je m'en fiche, je vais aller moi-même, avec ma petite troupe, on va libérer Paris. Donc il arrive... à peu près en même temps que le maréchal Leclerc, pas par la porte d'Orléans, mais juste à côté. Et puis, lui, il file directement au Ritz, parce que c'était son obsession. Voilà.
Donc, c'était son quartier général.
Ah, ça au moins. Voilà comment les choses se sont faites. Et derrière, il a eu des ennuis avec... Alors, il y a d'abord les autorités journalistiques de l'époque, une sorte de commission de la carte, qui disait, mais qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit. Il faut choisir. Soit vous êtes combattant, soit vous êtes journaliste. Et puis, avec les militaires aussi. Les militaires, il a failli passer en cour martiale parce que, voilà, parce qu'il faut choisir dans la vie, il faut choisir. Bah, lui, il n'aimait pas choisir. Il aimait aller jusqu'au bout. Toujours l'excès.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu de son œuvre, mais on parlait plutôt de la biographie là, en question. On va quand même évoquer les œuvres importantes. Mais avant, je voudrais que tu nous dises un mot sur comment il a découvert la corrida. Parce que ça a été jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Et si, à la fin de sa vie, il a fait encore de nombreux voyages en Espagne, malgré son état de santé qui était déjà dégradé, il est retourné en Espagne pour vivre les corridas. Et il est devenu très ami en même temps avec Dominguín
et Ordóñez.
Et Ordóñez.
Et en effet...
Donc il a fait toute une... Moi, je me souviens avoir lu un livre qui racontait toute une tournée dans le monde d'Ordóñez et Dominguín.
Ce livre
s'appelle... C'est un bouquin formidable.
L'été dangereux.
L'été dangereux.
Et en effet, c'était la rivalité terrible qu'il y avait entre ces deux grands toreros. Il y en avait un qui était en ascension, l'autre qui était sur le déclin. Donc ils se toisaient l'un l'autre. Et il va suivre pour le magazine Look... Cette rivalité où il va aller de place en place, de plaza en plaza, et il va raconter ça en effet dans une série d'articles qui vont devenir un livre qui s'appelle L'été dangereux, qui est l'été 1959 et qui pour lui aussi va devenir aussi un été très, très dangereux. Ben, il va découvrir progressivement, mais si vous voulez, avec cette passion qu'il avait, cette curiosité. On parlait tout à l'heure de son goût des bas-fonds, etc. Il fallait qu'il découvre tout. Alors, la boxe, c'est vrai que ça l'excitait beaucoup, mais après, on lui parle de ça. Donc, il fait des voyages. Il commence par le sud-ouest et puis après, il arrive évidemment en Espagne. Et progressivement, il va se mettre à aimer ça et il va emmener tout le monde là-bas. Et son grand cri de guerre, c'était « Amenez-vous ». Il demandait à ses amis, il dit « Amenez-vous maintenant ». Alors, ils arrivaient tous de partout et c'était toujours des fiestas invraisemblables.
Il aimait ça à tel point qu'il n'était pas seulement spectateur, puisqu'il est descendu dans l'arène et qu'il s'est coltiné avec des taureaux sérieux.
Apparemment, il n'était pas nul, d'après ce que disent les spécialistes. Et un jour, il va avoir la garde de son filleul. Et figurez-vous que son filleul est le fils d'un très grand comédien, c'était un grand compagnon de Bamboche, qui est Pierre Brasseur.
Et ce donc filleul, c'est Claude.
Vous le connaissez, donc il a tourné Camping pas très loin de chez vous. C'est Claude. Et Claude Brasseur, tout jeune, va se retrouver avec son parrain. Il a été baptisé à Saint-Séverin et en présence de Hemingway lui-même. Il va se retrouver avec son parrain. Dans ces endroits qui vont l'ennuyer très vite, parce qu'il n'aimait pas beaucoup la corrida, d'une part, et puis il n'aimait pas avoir tous ces gens sous en permanence. Mais il paraît qu'il s'en est bien occupé. Il m'a raconté ça, il m'a expliqué comment il était moins bordélique qu'il n'y paraissait, qu'il était très sérieux, et il s'est bien occupé de lui. Mais enfin, en gros, pour lui, c'était surtout des occasions de fêtes et de fiestas, et... Voilà, il aimait ça, je crois qu'il l'aimait profondément, qu'il en parlait très bien. Tous les spécialistes de la corrida disent que c'était un...
Ouais, il a écrit en plus de beaux livres.
Et évidemment, parce que c'est sûr que quand on raconte, quand il s'est mis à aimer l'Espagne, il raconte déjà un premier très grand livre, puisqu'il raconte la guerre d'Espagne à travers « Pour qui sonne le glas ?». Et puis après, il va écrire un très beau livre sur la corrida qui s'appelle « Mort dans l'après-midi ». Et donc, il a une vraie belle connaissance et il en parle d'une manière très, très esthétique et avec ce que les aficionados aiment.
J'en retrouvais, en feuilletant ton livre, à propos des femmes, on va revenir après à son œuvre. C'est une citation de Léopold Fargue qui dit « Incorrigible Hemingway ». Il confond son livret de famille avec un tableau de chasse.
Oui, ça a commencé assez tôt, puisqu'après l'épisode dont je vous ai parlé, de la première découverte amoureuse à Paris quand il a 18 ans, et qu'il va se retrouver sur le front italien quelques semaines plus tard, qu'il va être blessé. Donc, en juillet 1918, il va être soigné par une belle infirmière d'origine polonaise, qui s'appelait Agnès von Kurowski, qui elle aussi sera un petit peu plus, est un peu plus âgée, elle a 27 ans, et il va tomber éperdument amoureux de cette femme, persuadé qu'elle va l'épouser, que tout va bien se passer, il va rentrer de son côté en attendant qu'elle arrive, elle n'arrivera jamais, en revanche arrivera un câble où elle lui annoncera qu'elle va se fiancer, mais avec quelqu'un d'autre. Donc toujours cette idée de la trahison qui va l'obséder en permanence.
Alors comment, au milieu de cette vie extrêmement remplie au quotidien, entre le sport, la boxe, les guerres, les corridas, enfin tout ce qu'on vient de raconter, les fêtes à Paris notamment, comment trouve-t-il l'inspiration, deux, l'inspiration oui, parce que c'est sa vie, mais le temps d'écrire?
Bah d'abord parce qu'il y a des gens, quoi qu'en pensent quelques pisse vinaigre, qui peuvent faire plusieurs choses à la fois. Bon, il ne faut pas leur en vouloir, mais il se trouve qu'il a écrit un nombre incalculable de nouvelles, vraiment qui sont remarquables, plus une douzaine de romans. Tous ont été adaptés au cinéma, donc et parfois deux fois même. Donc, et puis des œuvres qui demeurent. Il y a des gens comme ça. Alors, lui se levait très, très tôt, il écrivait très tôt le matin, et il écrivait, il a pratiquement écrit toute sa vie, quoi. Et quand il n'arrivait plus à écrire, est arrivé ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que c'était pour lui la décrépitude, la déchéance et le début de la fin. Donc, il écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne pense pas que de ce point de vue, ça devait être un mari ou un compagnon. Fort présent, parce que évidemment, sa maîtresse exigeante, c'était d'abord la littérature.
Alors, si on veut lire Hemingway, on commence par quoi ?
Moi, je dirais que pour tous les enfants, les adolescents, il faut absolument recommander Le Vieil Homme et la Mer. Le Vieil Homme et la Mer, c'est sa dernière œuvre, écrite après le prix Nobel, mais c'est une œuvre absolument remarquable, parce que c'est une œuvre, c'est une fable. Au fond, comme Le Petit Prince, c'est une fable, c'est une fable universelle qui s'est vendue à plus de 7 millions d'exemplaires. Ça a été un succès inouï, mais c'est un beau livre, vraiment épuré, je dirais, jusqu'à l'os, puisque il s'agit de, vous le savez, de la pêche au très gros. Et quand il va revenir, ce pauvre vieux pêcheur avec ce marlin qu'enfin il va réussir à sortir des profondeurs au terme d'une bataille homérique, que progressivement il va voir arriver les requins qui vont bouffer sa prise et qui va revenir pratiquement avec un squelette. Ça va être extraordinairement douloureux pour lui. Mais c'est une très très belle histoire sur justement la résistance, le courage. C'est, je pense, un livre qu'il faut recommander en numéro un. Paris est une fête est un très beau livre qui raconte très bien ce Paris-là. Bon, c'est un livre plutôt d'un récit, un livre de mémoire. Pour qui sonne le glas, de mon point de vue, a un peu vieilli. C'est son grand livre, mais c'est un petit peu vieilli. La vie aux armes est un beau livre, un très très beau livre. Les neiges du Kilimandjaro et quelques autres nouvelles de cette nature. Yep. Voilà, il y a de quoi faire avec Hemingway.
Comment a-t-il accueilli le Nobel ? Parce qu'il n'est pas allé le chercher, d'abord. Il n'est pas allé à Stockholm.
Non, alors,
on dit que c'est pour raison de santé, mais oui. Est-ce que c'est vraiment...
Non, franchement, il était content, hein, parce que à chaque fois que quelqu'un l'avait, surtout si c'était un Américain, type Faulkner, type Sinclair Lewis, etc., il était furieux, très jaloux, parce qu'ils étaient tous jaloux les uns les autres, forcément. Surtout avec Faulkner, il a eu des drôles de rapports. Faulkner... disait avec beaucoup de condescendance, mais ce qui est terrible chez Hemingway, c'est qu'au fond, tous ces mots, on peut les retrouver dans le dictionnaire. Alors pour lui, c'était l'idée qu'on puisse inventer des mots, qu'on puisse en tout cas être plus inaccessible que ne l'était Hemingway. Visiblement, ça lui a été difficile. Bon, il y a eu ça. Et puis, après, il est heureux, il est très heureux, il le dit quand il apprend par un coup de téléphone très tôt le matin en 1954 qu'il a le Nobel, il est vraiment très très heureux.
J'ai eu cette chose.
Oui, j'ai eu cette chose. Et puis après, très vite, il va dire, c'est putain, etc. Voilà, bon, il va commencer à devenir un petit peu moqueur. Et c'est vrai qu'il avait déjà pas mal de problèmes de santé. Donc il ne va pas aller à Stockholm pour la remise du prix. En revanche, il va écrire un discours que lira l'ambassadeur américain en Suède, qui sera le discours le plus court de toute l'histoire des Nobel de littérature.
Alors, 5 minutes à peu près. Ça, je voudrais qu'on termine un petit peu sur le sentiment que tu as eu face à ce personnage. Très sincèrement, moi, je vais te dire, je trouve qu'il n'apparaît pas toujours sous son meilleur jour et qu'il n'est pas toujours très sympathique. D'ailleurs, on voit, excuse-moi, dans la liste de ses amis, qu'il se fâche quasiment avec tous ses amis. Et que manifestement, il a peut-être un ego un peu surdimensionné, qu'après ça, il a une certaine paranoïa avec le FBI, etc. etc. Je trouve que, tu le dis d'ailleurs quelque part, aimer un mot qu'il a eu tellement de mal à dire à tout le monde. Et je trouve qu'il n'est pas toujours sympathique.
Non, et j'ai souhaité être le plus honnête possible par rapport, évidemment, à ses biographies de gens qui étaient en empathie avec lui, parce qu'ils ont vécu avec lui, c'était leur ami, tout ça, donc c'est normal qu'ils aient plutôt des mots flatteurs à son égard. Il y a des moments de sa vie où, franchement, il apparaît comme vraiment extraordinairement méprisant vis-à-vis des autres. Et peu reconnaissant vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé. Il y avait comme ça un certain nombre de gens, d'écrivains, qui aujourd'hui sont un peu tombés dans l'oubli, comme Sherwood Anderson, par exemple, dont il va dire le pire mal, alors que Sherwood Anderson va l'aider à accéder aux plus hautes marches. Gertrude Stein, qui est une femme qui a fait un travail formidable pour le faire connaître, de la même manière qu'elle va faire la même chose avec James Joyce. Il va la choisir comme marraine de son premier fils, puis après il va avoir des mots terribles, grosse lesbienne, on lui dit grosse lesbienne, ça se dit pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise, cette pute, cette maquerelle, il l'écrivait, il ne contentait pas de le dire comme ça dans une conférence, hein. Et il va être assez dur avec cette femme, avec Scott Fitzgerald également. Alors, je crois qu'il avait une vraie affection pour Fitzgerald, mais il n'aimait pas du tout Zelda. Alors là, Zelda va être un sujet de conflit. Et il lui dit, il lui écrit, ta femme est une cinglée, cette folle, etc. C'est vrai qu'elle va terminer
mais
à l'asile.
Mais il s'est attaché aussi avec Dos Passos, qui Dos a pourtant Passos. Été
alors,
un
Dos
ami
Passos,
très, hein, très
oui,
proche.
Dans des conditions que je trouve vraiment très injustes, parce que c'était son grand ami, en effet. Il va épouser donc cette fameuse Kate dont on parlait tout à l'heure. Et il va, simplement parce que Dos Passos avait pris la défense d'un type qui allait être exécuté après la guerre d'Espagne, il y a eu beaucoup de règlements de compte, Hemingway va être très dur, va dire non, de toute façon ce type était un salopard, donc c'est normal, et il va se brouiller avec son ami Dos Passos, qui n'était pas en très bonne fortune à ce moment-là, pas très bonne condition, donc il pouvait, Hemingway avait un statut, il aurait pu l'aider, quoi, et ça va être, on voit qu'il est capable d'ingratitude, en même temps, il était très franc, hein, il disait toujours tout ce qu'il pensait, peut-être trop, d'ailleurs. Il écrivait, il disait tout ce qu'il pensait, avec une violence dans le verbe, très fort.
Merci Patrick. Donc c'est une biographie, mais comme la vie d'Hemingway, c'est un roman. C'est presque un roman qu'on lit, hein, parce qu'en plus c'est formidablement écrit et raconté. On a évoqué quelques passages. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Bon, je vois que nous avons peut-être évoqué l'essentiel, mais je vous recommande vraiment de vous plonger dans la lecture de cette biographie, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un roman à elle seule.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous et merci à toi, Patrick.